les infos à Washington.
Voilà, il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Une attaque du groupe djihadiste Boko Haram samedi contre des participants à une cérémonie de funérailles dans le nord-est du Nigeria a fait 65 morts, soit près de 3 fois plus qu'annoncé dans un premier bilan. C'est ce qu'a déclaré un responsable local cité par l'AFP. Des dizaines de cadavres supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés d'un village proche de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Il y a 65 morts et 10 blessés, a déclaré le chef du gouvernement local, Mohamed Boulama. Plus de 20 personnes sont mortes dans l'attaque contre les participants rassemblés pour la cérémonie de funérailles. Des dizaines d'autres ont été tués alors qu'elles tentaient de poursuivre les djihadistes. 46 migrants, dont les corps ont été repêchés après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, ont été inhumés dans un cimetière pour migrants à Tadjoura, dans l'ouest libyen. Selon l'agence France Presse, 16 autres corps repêchés seront inhumés ultérieurement, selon les autorités. Le secours libyen ont annoncé vendredi avoir repêché 62 corps de migrants après le naufrage la veille de leur embarcation au large de Khoms, ville située à 120 km à l'ouest de Tripoli. 7 migrants ayant été secourus après ce naufrage sont venus prêter main forte aux Libyens pour enterrer leurs compagnons. Le nombre de migrants présents à bord de l'embarcation ayant coulé dans la nuit de mercredi à jeudi demeure incertain. Les chiffres fluctuant selon les sources qualifiées de la pire tragédie en mer Méditerranée cette année selon les Nations Unies. Le naufrage a coûté la vie à au moins 110 migrants. En Libye, 5 médecins ont été tués, 8 autres personnes blessées dans une frappe aérienne contre un hôpital de campagne au sud de la capitale Tripoli. C'était samedi hier, donc, selon une source du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, le GNA, reconnu par les Nations Unies. Les ambulances et les hôpitaux de campagne près des zones de combat au sud de Tripoli sont fréquemment la cible de frappes aériennes que le GNA attribué aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Le roi du Maroc, Mohamed VI, célèbre donc ce mardi ses 20 ans de règne dans un pays stable, toujours marqué par de profondes inégalités. Malgré les efforts de développement, comme chaque année, les villes pavoisées de drapeaux préparent des festivités pour la très protocolaire fête annuelle du trône et la presse marocaine publie des bilans élogieux. Il y a quelques semaines, pourtant, plusieurs voix multipliaient les mises en garde sur la situation du pays, des journaux évoquant le déclin marocain, le coup de pompe de l'économie ou le volcan social sur lequel dansent des millions de jeunes en déshérence.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Voilà, parlons de la crise syrienne. À présent, 9 civils ont été tués dans des raids du régime et de l'allié russe sur des régions du nord-ouest de la Syrie, dominées par les djihadistes, où le pilonnage quasi quotidien sème la mort parmi la population civile depuis 3 mois, selon une ONG. Les raids aériens et les tirs d'artillerie ont visé ce dimanche divers secteurs d'Idleb et de Hama, tuant 9 civils, selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Téhéran a mis en garde dimanche les Européens contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, jugeant que la multiplication d'incidents compromet les efforts en cours pour sauver l'accord nucléaire de 2015, fragilisé par le retrait américain. Et puis, pour terminer, cette information sportive, la République démocratique du Congo a remporté le premier Afro-CAN de basketball masculin, réservé donc aux joueurs locaux en battant le Kenya 82-61. C'était hier en finale disputée à Bamako. La compétition a regroupé donc dans la capitale malienne 12 pays. Le Mali donc pays organisateur, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Tchad et la Tunisie. C'était donc Bagassi Koura pour cette présentation. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure, mais l'info est en continu et c'est sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Oui, le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Nous discutons ce soir de la liberté religieuse dans votre société. La semaine dernière, le département d'État ici à Washington a organisé une conférence-atelier sur la liberté religieuse dans le monde. Plusieurs thèmes ont été abordés. Diverses personnalités politiques, certains acteurs impliqués dans les questions religieuses ont pris part à ces assises. Quel est l'enjeu de la liberté religieuse selon vous? Est-ce que les religions exercent librement leur liberté dans votre pays? Nous en parlons dans un instant avec vous, Eric Manilakiza, qui vous souhaite la bienvenue dans ce dialogue des religions qui accueille en participant à la conférence facilitée par le département d'État. C'est le professeur Jean-Pierre Karegeye. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur sur les questions de religion et de génocide. Je signale aussi que vous enseignez à Dixon College en Pennsylvanie. Comment vous définissez la liberté religieuse, professeur?
Bon, disons d'abord, avant de définir la liberté religieuse, mais plutôt à définir le cadre de ces rencontres qui ont été organisées au département d'État du 16 au 18 juillet. C'était en effet la deuxième de ce genre, donc deuxième rencontre. Mais c'est au fait depuis 2016, je crois, que le département d'État publie un rapport annuel sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. Et donc, parler de la liberté religieuse, il faut d'abord le comprendre dans un contexte américain quand il parle de la liberté religieuse. C'est-à-dire, pour les Américains ou pour l'État américain, c'est d'abord une question de droit. C'est-à-dire, je vais parler des questions légales et qui est aussi marquée par l'histoire et la morale américaine. Donc, la quête de la liberté religieuse est considérée comme un des actes fondateurs des États-Unis. Et si vous rappelez très bien que le premier amendement, disons le premier amendement de la Constitution américaine, souligne l'importance de la liberté religieuse. C'est donc dans ce même amendement qu'il y a la liberté d'expression. Donc les deux sont vraiment liés, expression et religion. Donc ça, c'est très important pour les Américains. Et deuxième élément, parce qu'on m'avait demandé de finir la liberté religieuse, deuxième élément qui est aussi important, c'est que certains immigrés d'origine anglaise avaient fui la persécution de Charles Ier. Ça, c'était au XVIIe siècle. Et donc, c'est que se sont retrouvés aux États-Unis, appelés, eux-mêmes d'ailleurs s'appelaient les Puritains, et avaient découvert la Nouvelle-Angleterre comme leur nouvelle Jérusalem, si vous voulez, un lieu où ils pouvaient exercer leur liberté religieuse. Donc, il y a ces aspects, et parmi tant d'autres, et qui permet de définir la liberté religieuse. Donc, où chaque personne a le droit d'adhérer à sa foi et de l'exercer. Et donc, pour les États-Unis, il y a plusieurs éléments, dont les deux que je viens de souligner, qui pourraient un peu nous permettre de comprendre le contexte.
C'est ça même l'intérêt des États-Unis pour ces rencontres, n'est-ce pas? Quelles sont les limites de cette liberté, globalement?
Oui. Donc ça, c'est l'intérêt pour les Américains, ce contexte. Je dirais intérêt officiel, si vous voulez. Mais en participant à ce genre de rencontres, et je crois qu'il y a aussi une dimension certainement politique. Oui, par exemple, le fait qu'il y avait une certaine attaque en règle contre la Chine, la Russie sur la question religion. Donc ça signifie qu'il y a un aspect important pour eux aussi qui est lié aux questions politiques, si vous voulez.
Quelles sont les limites alors de cette liberté que vous venez de définir?
Bon, je crois que parler des limites de ces libertés, bon, pour les Américains, je dirais d'abord, en parlant de la liberté religieuse, comme je dis, il y a la liberté d'expression. Donc, pour eux, je dirais que c'est un élément très, très, très important. Je crois que les limites seraient liées à la définition même de la liberté religieuse, n'est-ce pas? Parce que c'est très ironique quand les puritains sont arrivés aux États-Unis dans le XVIIe siècle, dans ce qu'ils appelaient la Nouvelle-Angleterre, et ils ont été intolérants vis-à-vis de ceux qui pratiquaient notre foi, donc ceux qui n'étaient pas puritains, n'est-ce pas, même en utilisant la violence. Les mêmes personnes qui étaient victimes de la violence ont pratiqué, ont à leur tour pratiqué cette même violence contre des personnes qui n'exprimaient pas la foi telle qu'ils eux-mêmes l'entendaient. Donc ça, c'est un des éléments, je dirais, c'est certaines limites, parce que donc une deuxième limite peut-être, ou même liée à ça, c'est penser à une certaine liberté, disons la liberté religieuse, ne signifie pas tolérance, me semble-t-il. Parce que même les grandes religions, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, sont nées aussi dans la persécution. Donc, elles étaient persécutées, mais aussi à leur tour, les mêmes religions aussi ont persécuté ceux qui ne partageaient pas leur foi. Donc je crois que ça, c'est un élément qui pourrait être considéré aussi comme limite à exprimer ou à parler de la liberté religieuse. Et loin de là, ça ne signifie pas que c'est négatif, c'est vraiment positif que les gens expriment, vivent leur foi. Mais dans quelle mesure cette expression me permet d'être tolérant vis-à-vis de l'autre? Et pour moi, ça, c'est la question en rapport avec la religion, je dirais.
Gardez la ligne, professeur, nous avons un auditeur en ligne, c'est Tim Mabosso qui est à Kinshasa. Tim, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Comment vous allez?
Ça va très bien. Vous avez la parole.
Ouais. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vous remercie de m'accorder la parole. Je voulais dire ceci. Concernant la liberté de la religion au sein de mon pays, je félicite le gouvernement parce que il a accordé à la religion le plein droit de ses familles et puis d'aller là où il peut. Mais quelque chose dont je préférerais que le gouvernement tienne en compte, c'est ce que j'ai dit plutôt dans mon commentaire. L'État a fait abandonner
ces domaines-là
à n'importe qui. On a des impôts partout. Comme là, je suis sur une avenue, et sur le même avenue, on se retrouve avec quatre églises. On ne sait pas. On risquait de se retrouver dans une avenue comme ça, et l'avenue est complètement bourrée des églises.
Merci Tim pour votre.
Et moi, je voulais plutôt que l'État de mon pays, l'État congolais, fasse qu'il puisse mettre de l'ordre dans cette affaire. Donc, permettre à la religion.
Merci Tim. Nous avons Mavé Chisambika qui est également en RDC, mais à Kananga. Mavé, bonsoir.
Oui, bonsoir, Rafik. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde.
Vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup pour le sujet, c'est très important. Je voudrais, moi personnellement, je voudrais justement donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Je sais que la RDC, c'est un pays laïque. Et donc, les activités où les religions exercent leurs activités en toute liberté. L'État a donné la possibilité de toutes les religions de fonctionner, d'exercer leurs activités dans une liberté absolue. Mais à ce que moi je suis en train de constater, c'est quoi? Contrairement à ce qui se fait sur d'autres sujets. La religion, peut-être les chrétiens ne peuvent pas, d'une manière libre, exercer leurs activités à travers le pays, comme nous les entendons dans d'autres pays du monde, exercer les activités les religions exercer leurs activités, c'est pas facile. Mais chez nous, au Congo, cela est une pratique vraiment qui est acceptée par l'État. La loi n'interdit pas, n'interdit aucune disposition. En fait, l'État, qu'est-ce que je dis, il n'y a pas une loi dans mon pays qui interdit les religions d'exercer leurs activités et de leurs exercices à travers l'étendue du pays. Mais maintenant, chose grave, c'est que nous ne constatons qu'il y a une intolérance entre les religions elles-mêmes. Vous trouverez quelqu'un de catholique qui n'accepte jamais l'existence de quelqu'un que d'une autre religion, peut-être un climatiste ou un protestant. Il y a des difficultés à ces points-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre si vraiment l'État a donné la possibilité. Alors, pourquoi les religions elles-mêmes n'arrivent pas à cohabiter ou à mettre ensemble leurs idées, peut-être pour contribuer et donner leur point de vue pour le développement ou peut-être la contribution au développement du pays.
Merci Mavé, merci pour votre contribution. Il y a aussi Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui dit que la liberté des cultes est exagérée, c'est devenu libertinage. Les églises foisonnent au point que c'est un fonds de commerce et des églises où on ne prêche que les miracles. La prospérité, le bonheur, la réussite, l'acquisition des biens de ce monde pendant qu'on ignore l'essentiel, c'est-à-dire avoir la vie éternelle en vivant dans l'intégrité morale. Il dit également que l'État ne remet pas de l'ordre dans la pratique des cultes, c'est laisser le peuple dans un sommeil politique. Parfois, il y a des églises qui disent à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Laisser la politique aux laïcs et les religions aux spirituels, ne pas mélanger les deux activités, la politique au mondain et les églises aux spirituels. On va y revenir pour un commentaire avec le professeur. Mais avant, nous avons un auditeur, c'est plutôt une auditrice au Cameroun, c'est Marie-Jeanne Abega, une fidèle auditrice du dialogue de religion. Bonsoir.
Bonsoir, VOA.
Vous avez la parole.
Je voudrais dire qu'au Cameroun, les religieux sont libres d'exercer en toute quiétude leurs activités. L'État soutient même ce courant religieux parce qu'il y a les subventions de l'État qui va à des religions qui sont organisées, telles que l'islam, l'église catholique, les protestants, ils ont une subvention. D'ailleurs, l'exemple qui est sous la main, là, c'est la participation au Hajj 2019. L'État soutient toujours les pèlerins. Mais il y a un autre courant de pensée qui est les églises pentecôtistes qui n'arrivent pas à s'accorder pour trouver un leader, celui qui peut les représenter valablement auprès des institutions, parce que chacun se dit qu'il a le Saint-Esprit plus que l'autre, il est plus puissant que l'autre, et du coup, il n'y a pas de leader pentecôtiste qui doit représenter ce courant de pensée auprès de
chers clients. Votre solde est insuffisant pour continuer cet appel.
Je pense qu'il y a un problème de connexion téléphonique avec Marie-Jeanne Abega au Cameroun. Alphonse Mbouaki qui dit pour lui que l'enjeu de la liberté religieuse consiste à laisser la population exercer sa foi librement pour ne pas réveiller sa conscience dans la gestion du pays. Un peuple devenu excessivement religieux s'occupe peu de la gestion des cités, ne revendique pas ses droits aux politiques, droit à la bonne gouvernance, droit à la transparence des affaires de l'État, droit à la démocratie, aux libertés fondamentales de l'homme. Le peuple s'endort dans la religion. C'est comme on dit, comme le dit un russe, il cite un russe, je ne connais pas lequel, la religion est l'opium du peuple qui ne contrôle pas les politiques. Professeur, Karegeye, on va directement dans les grands lacs que vous avez suivi, ce qui se passe en RDC. Tim qui parle de l'absence de l'État dans la gestion du domaine de religion. Mavé qui parle de l'intolérance au sein même des confessions religieuses. Alphonse Mbouaki qui revient sur le désordre. En 30 secondes, un commentaire.
Oui, très très rapidement, oui. Et je crois que cette prolifération ou inflation, si vous me permettez le terme, des religions, par exemple dans le cas du Congo ou ailleurs, ça pose, c'est vrai, un problème. C'est-à-dire cette même parole providentielle, si on peut dire, donc de ces églises, par exemple, qui promettent miracles et tout ce qu'on peut dire, et à un moment peut elle-même violer la conscience des gens. Et à ce moment-là, il est même difficile au sein des églises de parler d'une certaine liberté au moment où la conscience même est violée. Donc, les gens, donc ça c'est un. Et deux, pour moi, je crois qu'il est important, il faut une certaine régulation. De mon point de vue, en constatant ce qui se passe en Afrique, je crois que c'est très important qu'il y ait une certaine formation. Pour moi, il est important une formation théologique de ceux qui conduisent les gens. Donc c'est tout ce qu'on appelle les pasteurs. Pour moi, c'est très important. C'est vrai que les églises, ou plutôt les religions, aussi s'impliquent dans les phénomènes, dans les actions sociales, mais cela ne doit pas amener à les États africains à démissionner. C'est vrai, il y a beaucoup d'endroits dans beaucoup de pays africains. Vous avez par exemple l'éducation, la santé détenue par des églises à 80-90%. Et on peut se poser la question des rôles aussi des États. Donc voilà ce que je pourrais dire en peu de mots, parce que vous m'avez donné 30 secondes.
J'ai participé à une messe et le pasteur qui prêchait, qui disait que les Africains prient beaucoup, il a ironisé que prier pour avoir de l'argent, que ce n'est pas tellement vrai. Il a dit que si on recevait de l'argent, autant qu'on priait pour avoir de l'argent, que les Africains financeraient les États-Unis. C'était une manière d'ironiser pour montrer que déjà, ils ne savaient pas peut-être bien prier. Nous avons Vincent Seonou en ligne. Vincent, bonsoir.
Oui, bonsoir, cher journaliste. Bonsoir, The War Africa.
Vous avez la parole.
Effectivement, et vous savez, au Bénin ici, ça se passe très bien parce que cela s'est écrit dans la constitution béninoise datée du 11 décembre 1990 que, en son article 2, que l'État béninois est un État laïque, démocratique et le pouvoir est exercé par le peuple. Ce qui veut dire que l'État actuel doit contribuer au développement de nos cultures, à savoir la religion. Nous avons comme trois religions au pays ici, l'islam, et le christianisme et l'animisme. Ça se passe très bien. Nous ces trois religions contribuent énormément à la vie politique et aussi à la paix dans notre pays actuellement. Et depuis 1990, on n'en manque pas de constater ces faits. Mais là où le bas blesse, c'est que les vaudous est vraiment marginalisé. Et surtout les plans, c'est ce qui pose aussi le problème à des fois que voilà que dans le gouvernement, dans les administrations, il y a des vaudouistes qui sont représentés. Mais quand il y a des décisions religieuses qui ont été prises, vraiment que voilà que le vaudou n'est pas épargné, écarté. Vous voyez, pour le Hajj de cette année, pour aller à la Mecque ou bien à Jeddah en Arabie Saoudite, ces pèlerins ont contribué au voyage de ces pèlerins. Eux aussi, aller en Italie comme les pèlerinages catholiques, vraiment, ces pèlerins aussi sont chaque fois aussi aidés par le gouvernement. Mais le vaudou est écarté sur tous les plans, c'est ce qui pose actuellement les problèmes. Mais il y a la communion entre ces trois religions chaque année. Chacun participe énormément à la paix de notre pays et ça se passe très bien. Le vaudou est là, voilà que...
Merci Vincent pour votre contribution. Nous avons Salomon. Bonsoir Salomon.
Oui, bonsoir.
Vous avez la parole, Salomon.
Oui, merci. Pour la liberté des religions dans notre pays, oui, c'est quelque chose que le gouvernement a garanti. Je vois souvent c'est chaque église où il y a la personnalité juridique et les gens prêchent comme ils veulent n'importe comment. Donc nous sommes dans un état laïque, mais il arrive des fois, ce que je trouve l'enjeu, parfois est détourné. Donc, le pasteur se sont matérialisés pour gagner les âmes de chrétiens, de pauvres chrétiens qui pensent que pour gagner la vie, il faut prier, aller à l'église. Leurs prédications parfois sont tournées dans le sens que il faut pour aller en Europe, par exemple, les États-Unis d'Amérique, gagner la vie, avoir de voitures, tout qu'on sort, il faut prier et passer des veillées, ou bien pour épouser un homme qui est riche, il faut aller à l'église. Donc ça, un peu, c'est ce qui détourne l'enjeu des églises. Mais sur le plan social, tout se passe bien. On ne tient pas compte des religions que nous, il y a des musulmans, il y a des ceci, ça, non. Tout ça, nous sommes dans un état laïque. C'est comme ça que ça se passe dans mon pays.
Merci à Salomon pour votre témoignage. Professeur Karegeye, un commentaire très rapidement avant de passer à la question suivante, en 30 secondes.
Oui, mais je crois que bon, il y a beaucoup d'auditeurs sont revenus sur la question de la laïcité des États. Bon, évidemment, ça c'est important et je crois que ça participe à cette liberté au moment où un État se définit comme laïque. Donc c'est important. Voilà.
Oui, et si les États-Unis, je reviens sur la conférence de Washington, si les États-Unis s'opposent à un État défenseur de la liberté religieuse, peut-on dire qu'elle n'a rien à se reprocher?
Bon, comme je disais, il y a des raisons sans doute intrinsèques, ou mieux des causes historiques qui expliquent le primat de la liberté religieuse aux États-Unis. Et donc, comme je disais, pour la petite histoire, vous avez les puritains qui ont trouvé refuge aux États-Unis, mais qui sont devenus ironiquement et intolérants, utilisant même la violence vis-à-vis des autres croyances. Donc, surtout avec le pasteur John Cotton. Bon, là, ça, c'était un exemple. Mais un autre aspect, en plus de ça, donc, je dirais que les États-Unis ne sont pas égalisés, même en parlant de la liberté religieuse ou de la religion. Il y a un autre aspect, c'est par exemple la morale religieuse, et surtout chrétienne aux États-Unis, qui semble se focaliser sur certains points particuliers, par exemple comme l'avortement, et semble ignorer par exemple les questions de justice sociale. Et ici, donc, je crois que la question de justice ne peut pas être seulement regardée, ou plutôt les questions sociales.
Et quels sont les enjeux pour l'Afrique? Quels sont les enjeux pour l'Afrique? Très rapidement, en 30 secondes.
Bon, je crois que pour les enjeux pour l'Afrique, actuellement, comme beaucoup d'auditeurs l'ont dit, et qui semblaient reconnaître qu'il y avait pas le problème en soi sur la liberté de religion. C'est vrai que les conflits entre différentes religions existent en Afrique, comme au Nigeria, musulmans et chrétiens ou ailleurs. Ça existe, ou au sein même des communautés chrétiennes ou communautés musulmanes. Donc cela existe. Mais je crois qu'un des défis, je dirais, en Afrique, c'est plus la question de la question de l'extrémisme religieux. Donc ça existe quand même et c'est dangereux.
Oui, on parle justement de la violence de la liberté de culte. Il y a des mesures prises par le gouvernement rwandais en fermant certains lieux de culte. Serait-elle contre la liberté de religion?
Je pense pas, et je crois que ça répond à ce qu'un des auditeurs, un Congolais, je crois de Kinshasa ou de Canada, je ne me rappelle plus, et qui parlait de disons, cette prolifération des églises ou des religions, n'est-ce pas, à un moment, commence à manipuler les gens. Je crois qu'au niveau du Rwanda, c'était très clair. Donc, c'était certains lieux qui ne donnaient pas un cadre décent pour pouvoir exercer cette liberté de religion. Bon, si vous voulez, s'il faut amener des gens à prier dans un endroit où il n'y a pas suffisamment de sécurité, un endroit où les gens peuvent avoir des accidents, donc je crois qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas demander à un État de s'occuper de la santé, de s'occuper de l'éducation, et puis en même temps de ne pas avoir des mesures préventives pour qu'il n'y ait pas d'accident sur toutes ces questions de santé. Je crois que c'est plus question d'avoir des endroits décents.
Est-ce que pour prier, faut-il un diplôme? Parce que c'est l'une des exigences.
Non, non, non. L'État rwandais n'a pas exigé à ce que les gens aient un diplôme pour prier, mais a exigé
pour prêcher.
Une formation, voilà, pour prêcher. Et donc, je vous renverrai la même question. Voulez-vous être un prof d'histoire ou des mathématiques sans formation? Parce que là, c'est différent. Vous n'allez pas me renvoyer au début du siècle, avec les disciples du Christ, mais pour le moment, c'est qu'on prêche quand même, donc à partir d'un livre qui vient d'une autre tradition, il faut une certaine formation. Pour prêcher, je crois que ça fait sens qu'on ait une certaine...
Merci, professeur Jean-Pierre Karegué, pour votre grande contribution dans ce dialogue des religions. Malheureusement, le temps imparti à cette émission vient de prendre fin. À la prochaine, c'était Eric Manirakiza à Washington. Au revoir.